Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir donc à cette webconférence qui est à destination des chefs d'entreprise, des directeurs administratifs et financiers, des responsables administratifs et financiers. Et nous allons aborder donc la préparation et le dépôt de l'alias fiscale. Comme vous le savez, on est à peu près à un mois et demi de la deadline pour la plupart des entreprises. Donc, avant d'entamer cette webconférence, juste quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'articles sur l'actualité juridique et c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage qu'on a voulu assez clair. Jury Travail, c'était, enfin, au niveau de l'abonnement, donc vous avez accès à une base documentaire juridique, mais vous avez également accès à de nombreux modèles de courriers et de lettres et de contrats, ainsi qu'à une équipe de juristes qui répond au téléphone à toutes vos questions. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester notre service en posant votre première question gratuitement à nos juristes. Donc, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Rania Fawaz, que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui. En effet, elle avait déjà animé deux webconférences avec nous. Une première webconférence à l'automne sur la gestion des contrôles fiscaux en entreprise. Et le mois dernier, elle nous avait parlé des obligations fiscales des entreprises. Donc, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un sujet un petit peu plus précis, le sujet de l'alias fiscal. Et ma collègue Marine vous transmet en fait les liens pour revoir les deux précédentes webconférences avec Maître Fawaz. Donc bonjour à vous Maître et merci beaucoup d'être parmi nous à nouveau.
Bonjour Myriam, c'est toujours un plaisir d'intervenir avec l'équipe de Jury Travail. Effectivement, j'ai été ravie d'animer les deux précédentes conférences et j'ai pensé effectivement que cette troisième conférence était dans la suite logique des deux précédentes et qu'il fallait effectivement qu'on précise donc à Jury Travail et à tous les participants de ces webconférences les différentes clés pour déclarer et préparer également l'alias fiscal qui est l'objet et le thème de cette conférence aujourd'hui. Voilà.
Merci. Alors, comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Donc, nous les avons transmises à Maître Fawaz qui va y répondre. Donc, nous avons prévu 45 minutes et nous allons essayer de nous y tenir. Et pour pallier à certaines questions que vous pourriez poser dans le chat un petit peu plus tard, je vous rassure, vous recevrez le replay de la webconférence ainsi que le support que nous a préparé Maître Fawaz. Vous le recevrez par email d'ici un ou deux jours. Alors, si vous souhaitez poser des questions au cours de cette webconférence, ma collègue Marine, qui s'est présentée à vous, est là pour y répondre. Donc, vous pouvez le faire via l'onglet chat ou l'onglet questions qui se trouve juste à droite des vidéos. Si vous avez besoin donc de conseils juridiques, je vous invite à contacter Maître Fawaz. Donc, je vais vous transmettre ses coordonnées à l'écran. Donc, elle sera ravie d'y répondre. Donc, c'est une avocate en droit des affaires et fiscaliste au barreau de Paris, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc toutes les questions que nous avons reçues ont été regroupées sous trois thématiques différentes. D'abord, la définition et la composition de l'alias fiscal. Ensuite, nous aborderons des questions plus liées à la procédure de la déclaration. Et enfin, quand on parle d'impôts, en cas d'erreur et en cas de retard de déclaration, il y a des sanctions et c'est ce que nous aborderons dans notre dernière partie. Alors, commençons tout d'abord par la définition et la composition de l'alias fiscal. Maître Fawaz, pouvez-vous nous définir ce qu'est l'alias fiscal ?
Effectivement, Myriam, c'est d'abord dans la présentation la première chose auquel on doit se poser la question. C'est vrai que les chefs d'entreprise ont l'habitude de parler de bilan, mais à côté du bilan, il y a effectivement un ensemble de documents fiscaux qu'on appelle l'alias fiscal, qui permet de déterminer le montant de l'impôt qui va être payé par l'entreprise, qui peut effectivement être pris comme indicateur de la santé de l'entreprise pour les tiers comme les banques, les organismes sociaux, les fournisseurs. Et toutes les entreprises, les grands groupes, les commerçants, également les petites entreprises, les TPE, les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs, doivent remettre une liasse fiscale à l'administration. C'est donc un ensemble de documents fiscaux que j'ai essayé de regrouper dans un tableau que vous voyez à l'écran, où vous voyez effectivement un ensemble de formulaires CERFA qui permet effectivement également de connaître de manière détaillée la situation économique de la société, puisque vous avez le compte de résultat à l'intérieur, vous avez les IMO, vous avez les amortissements. Je ne vais pas faire le listing de toute la liste des documents, mais effectivement, Jury Travail vous communiquera cette présentation et vous avez là la liste des différents tableaux que vous devez remplir et qui aujourd'hui est disponible sur impogouv.fr de manière globale. Donc, cette liasse fiscale existe avec cet ensemble d'annexes et de manière globale et que vous pouvez remplir sur impogouv.fr. J'espère que j'ai été assez complète dans ma réponse, Myriam.
Oui, tout à fait, maître. Et puis, effectivement, nos spectateurs pourront avoir l'intégralité de la présentation et donc l'intégralité de la liste de documents que nous présentons actuellement à l'écran. Alors, une deuxième question, de quoi se compose l'alias fiscal des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ?
Effectivement, Myriam. Alors, nous allons d'abord nous intéresser à la catégorie d'imposition des sociétés qui sont soumises à l'IS. Alors, quand on dit les sociétés soumises à l'IS, de quoi on parle ? En général, c'est toujours les sociétés commerciales, donc les SARL, les SAS, les SASU, également des sociétés immobilières qui ont choisi l'option IS, donc impôt sur les sociétés parce que, par exemple, elles ont une activité de location immobilière. Donc, dedans, vous pouvez retrouver des SCI. Donc, ça paraît curieux, mais effectivement, même si elles n'ont pas un objet commercial, elles ont choisi l'option IS. Et dans le cadre donc, de l'impôt sur les sociétés, vous avez toujours deux régimes fiscaux. Donc, ça a l'air assez compliqué, mais c'est très simple. Vous avez régime simplifié d'imposition qu'on appelle dans notre jargon le RSI. On parle de régime simplifié si vous êtes sur un chiffre d'affaires inférieur au seuil prévu. On en a discuté lors de notre précédente conférence lorsqu'on a évoqué les obligations déclaratives des sociétés. Et donc, vous retrouverez ces chiffres d'affaires en deçà duquel vous êtes dans le régime simplifié dans ma précédente conférence. Et donc là, la liasse fiscale qu'il faudra présenter à l'administration, c'est la déclaration 2065 avec ses annexes. On va voir un exemple d'annexe dans la suite de notre conférence. Et les annexes, en fait, sont les formulaires 2033 A, B, C, D, E, F, G. Donc, pour un régime simplifié, l'alias fiscal, c'est le formulaire CERFA 2065 avec les annexes qui constituent le formulaire 2033. Si vous passez en régime normal d'imposition, donc c'est le cas numéro 2, En régime normal, c'est un chiffre d'affaires qui va être supérieur à 789 000 euros pour les ventes de marchandises ou 238 000 euros pour les prestations de services. Vous êtes dans le RNI, le régime normal d'imposition. Et là, la liasse fiscale, c'est la 2065 également, mais les annexes diffèrent. Donc, vous avez des annexes qui sont un peu différentes. Donc, vous avez les formulaires 2050 à 2057. Donc, nous les précisons parce qu'il y a un panel de nos participants qui travaillent effectivement dans la comptabilité. Et donc, nous essayons vraiment de vous donner des infos pratiques que vous pourrez utiliser dès la fin de la webconférence. Donc, ce sont des formulaires 2050 à 2057. Vous avez le formulaire 2058 A, B, C et le formulaire 2059 A, B, C, D, E, F, J. Donc, vous retrouverez également ces formulaires toujours sur impogouv.fr dans l'espace réservé aux professionnels si à l'issue de la webconférence, vous envisagez d'aller regarder ces différents formulaires. Vous les trouverez très facilement sur votre espace réservé aux professionnels dans les obligations déclaratives. Vous avez l'alias fiscale. Vous cliquez sur l'impôt sur les sociétés et là, vous verrez apparaître l'alias fiscale dans sa globalité avec ses différents formulaires. Voilà, Myriam.
Très bien, merci, merci beaucoup. Alors, que doit déclarer une entreprise si elle est soumise à l'imposition sur le revenu?
Alors, effectivement, donc là, on est passé un peu vite, je pense, effectivement, on a vu un peu dans la globalité au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc là, Myriam, on passe maintenant sur l'impôt sur le revenu. Donc, sur l'impôt sur le revenu, donc là, par exemple, Myriam fait passer un exemplaire de déclaration de formulaire CERFA. C'est la 2033 dont je vous ai parlé. Donc, pour un régime simplifié, c'est celle-ci que vous devez prendre en annexe. Donc, on a préféré effectivement vous montrer comment ça pouvait se présenter. Et vous voyez bien que vous êtes dans le régime simplifié de l'IS puisque vous parlez effectivement du bilan simplifié. Donc, voilà, vous le voyez à l'écran. Donc, merci Myriam. Voilà, ça, c'était un diapo qui était important à montrer.
Oui, j'étais en retard, désolée.
Voilà. Et je vais rebondir maintenant sur votre question. Donc là, on a vu effectivement les différents sujets liés à l'impôt sur les sociétés. Intéressons-nous maintenant à l'impôt sur le revenu. Vous allez me dire, moi, lorsque je parle de l'IS fiscal, effectivement, dans l'esprit de tous, on parle d'IS, c'est-à-dire qu'on parle de société commerciale, le chef d'entreprise nous demande de déposer les bilans et effectivement, suite au dépôt du bilan, on doit déclarer dans la foulée avant le 3 mai 2022. Cette année, c'est le 3 mai 2022. Donc, on se demande, mais qu'est-ce que vient faire l'IR ? L'IR, effectivement, dans l'esprit commun, c'est un impôt qui est là sur les revenus des particuliers. Détrompez-vous, il y a pas mal de sociétés désormais en France qui sont soumises à l'impôt, non pas sur les sociétés, mais à l'impôt sur l'IR. Pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés qu'on appelle des sociétés transparentes fiscalement. Donc, j'en avais parlé dans ma précédente webconférence. Quel type de sociétés peuvent être intégrées et peuvent être considérées comme transparentes fiscalement ? Vous avez l'entreprise individuelle, c'est-à-dire le micro-entrepreneur et l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est votre plombier, c'est votre boucher, c'est un commerçant qui exerce à titre individuel et en engageant son patrimoine individuel et personnel. Il n'est pas sous une forme de société. Voilà ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les sociétés de personnes. Dans les sociétés de personnes, vous avez les sociétés en nom collectif, qui est une forme de société, effectivement, souvent dans le cadre de transmission de patrimoine. On a des sociétés qui ont été créées il y a très très longtemps et qui ont continué à utiliser cette forme juridique qui est de moins en moins usitée, mais qui existe, notamment dans le milieu agricole aussi, on en a, mais ce sont plutôt des coopératives. Et vous avez dans le domaine de l'immobilier, ce que vous connaissez très bien, les sociétés civiles professionnelles, donc les gros bailleurs immobiliers, des gros gestionnaires de biens immobiliers sont en SCP. Alors, dans la SCP, vous avez deux options. Vous pouvez être soumis à l'IR, c'est-à-dire sur votre patrimoine individuel, vous pouvez être soumis à l'IS. Donc, j'ai évoqué les SCP pour l'IS, et là, j'évoquerai effectivement les SCP pour l'IR, sachant qu'à la base, ces sociétés-là sont considérées comme transparentes fiscalement et que l'exception, CVS. Et enfin, vous avez les sociétés qui sont sur option hier, c'est des SARL de famille, c'est des SAS qui ont choisi de soumissionner effectivement à l'option IR. Voilà ce que je pouvais dire sur les sociétés qui sont concernées par l'IR. Alors, effectivement, donc là, on a posé, les participants avaient une question par rapport à ça, comme l'avait dit Myriam. Quand est-ce qu'on doit déclarer si l'entreprise est soumise à l'IR? Alors, il faut faire la distinction. Oui, Myriam, voilà, il faut faire la distinction entre les deux types de revenus. Soit vous avez une activité commerciale et vous déclarez dans le cadre des BIC, c'est-à-dire les bénéfices industriels et commerciaux. C'est-à-dire que votre entreprise exploite un commerce ou exerce une activité d'industrie, de fabrication, d'usine en France. Dans ce cas-là, vous avez deux types de régimes qui vont être conditionnés sur le chiffre d'affaires que vous faites dans ce secteur d'activité. Pour le régime de la micro-entreprise, si vous êtes une petite TPE, eh bien, le chiffre d'affaires de l'année va figurer dans le cadre de l'alias fiscal sur la déclaration de revenus 2042C Pro, d'accord, avec les dates de déclaration de l'IR. Cette année, par exemple, pour la zone de la région parisienne, le 75, si vous passez par Internet, eh bien, les dates de déclaration de l'IR sont au mois de juin 2022. Donc, vous avez quand même pas mal de marge par rapport à ça. Et pour le régime réel, normal ou simplifié, c'est-à-dire celui, effectivement, avec les seuils de chiffre d'affaires dont je vous ai parlé, vous souscrivez une déclaration professionnelle de résultats qui va être transmise en ligne à la même date que les autres liasses fiscales, c'est-à-dire le 3 mai 2022. On dit ça le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai, mais cette année, c'est le 3 mai 2022. Voilà. Et donc ça, c'était pour le premier régime. Si vous suivez bien, le premier régime, le BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Quid des gens qui n'exercent pas d'activité commerciale? Il y a pas mal de gens, effectivement, qui n'ont pas d'activité commerciale. Par exemple, prenons les gens qui travaillent dans l'immobilier. Donc, ceux-là, en fait, vont déclarer en BNC, donc les bénéfices non commerciaux. Et il y a un régime déclaratif spécial en BNC. On appelle ça le chiffre d'affaires de l'année qui doit figurer sur également la déclaration de revenus 2042C Pro, comme pour la micro-entreprise en BIC. Et là encore, vous obéissez aux dates de déclaration de l'IR qui s'échelonnent en fonction des départements. Moi, effectivement, je regarde toujours le département du 75 pour mes clients. Donc, en général, puisque je suis avocat à Paris, donc en général, c'est là, cette année, c'est le 18 juin 2022. Et enfin, je ne sais pas si dans nos participants, nous avons des gens qui sont issus du monde agricole, mais ne l'oublions pas, hein, il y a eu le salon de l'agriculture il y a quelques jours de cela à Paris. Et donc, pour les BA, les bénéfices agricoles, c'est l'une des liasses fiscales qui doit être déposée le plus rapidement, c'est puisque la déclaration doit être déposée le 1er avril au plus tard. Donc, c'est une spécificité du régime fiscal des bénéfices agricoles. Voilà ce que je pouvais dire, effectivement, pour les entreprises et les personnes morales qui sont soumises à l'IR. Alors,
merci beaucoup, maître. Alors, parlons maintenant des professions libérales dont vous faites partie, du coup. Est-ce que la liasse fiscale est différente pour ce type de profession?
Alors, pour la liasse fiscale, pour les professions libérales, sujet que je connais bien, puisque dans les professions libérales, on intègre les avocats, les conseils fiscaux, les médecins, les kinésithérapeutes, donc les architectes. Donc, on a un ensemble donc, de professions qui sont très bien représentées dans la société et le milieu socio-éducatif et qu'il faut effectivement prendre en compte, d'où la question qui a été posée par Jury Travail, très pertinente là-dessus. Eh bien, là, on a un formulaire spécifique, qui est le formulaire 2035 et ses annexes, qui constitue l'alias fiscal qui va être déposé dans les premiers jours du mois de mai. Cette année, la date limite de dépôt, c'est le 3 mai 2022. On n'a pas forcément de nouveautés particulières par rapport à la loi de finances pour 2022. Il y a, comme l'année précédente, un engagement qui est pris par l'assujetti fiscal de cocher une case spécifique de sa déclaration pour désigner son prestataire de confiance, qui est souvent son expert comptable. Il y a une annexe 2035 ASSD qui permet le pré-remplissage de la 2042 CPRO des associés des sociétés de personnes. Puisque, évidemment, les médecins qui sont regroupés, par exemple, en société civile, eux vont régulariser une 2042. Et également, les avocats qui sont regroupés également en société vont régulariser une 2042. Donc, à titre individuel, ce sera une 2035. Et à titre, au titre de groupement, si vous êtes dans un groupement de médecins, des laboratoires qui ont fait des bonnes années avec le Covid, les avocats, effectivement. Là, si vous êtes regroupé en société de personnes, ben, dans ce cas-là, vous souscrivez une 2042 CPRO. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus.
Très bien, merci beaucoup, maître. Donc, nous allons passer aux questions relatives à la procédure de déclaration. Et d'abord, une première question très, très concrète. Le service des impôts offre-t-il un accompagnement fiscal pour les entreprises et comment en bénéficier?
Alors là, effectivement, j'ai été ravie de cette question parce que c'est un sujet que les entreprises connaissent mal. Et je pense effectivement qu'il est dans notre rôle d'accompagner effectivement tout le mouvement qui est en train d'être fait par l'administration fiscale pour accompagner au mieux le contribuable dans ses différentes déclarations. Pourquoi ? Parce que c'est très important par rapport à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, en France, on a un mouvement de fond envers l'entrepreneuriat et l'administration fiscale souhaite effectivement être un moteur. Ces conférences sont très intéressantes et j'y participe également dans un but de vulgariser le droit fiscal qui apparaît très obscur et abscon pour pas mal de personnes. Donc aujourd'hui, le service des impôts, l'administration fiscale a mis en place quelque chose qui est très intéressant et qui fait partie de son plan entre guillemets pour redorer son blason vis-à-vis des entreprises. Elle met en place un accompagnement fiscal qui va être destiné en principe aux petites et moyennes entreprises. Pourquoi ? Parce que les grands groupes, effectivement, ont des cabinets d'audit extrêmement importants, très structurés, qui travaillent avec eux et qui ont même l'oreille de Bercy. Et donc, effectivement, l'accompagnement fiscal se fait de façon en réalité naturelle. Ceux qui sont un peu plus laissés sur le côté, c'est les PME qui, effectivement, ont pas mal de questions, ont du mal à joindre le service des impôts et n'ont pas forcément à chaque fois la possibilité de faire appel à un fiscaliste dédié pour le dépôt de leur déclaration. Bah, dans ce cas-là, vous avez effectivement cette opportunité qui vous est désormais donnée de pouvoir faire appel à l'administration fiscale, d'en faire la demande. Cet accompagnement, en fait, va se caractériser par une mobilisation de l'inspecteur et du service des impôts dédié, puisque vous pouvez avoir un entretien avec lui où vous allez identifier les sujets fiscaux dont le traitement va devoir être clarifié ou confirmé par l'administration. Par exemple, si vous avez des questions sur la déductibilité de telle TVA, si vous avez par exemple des questions, quelle TVA je vais facturer pour tel type de service, parce que vous savez qu'il y a différentes TVA en fonction du secteur. Si par exemple, vous ne savez pas si telle ou telle charge peut être mis dans le bilan ou des questions sur des amortissements de biens spécifiques dans lesquels vous avez investi. Ensuite, vous allez analyser également avec eux les options fiscales que vous pouvez avoir, donc des crédits d'impôt que vous voulez mettre en place, qui sont liés par exemple à des produits à forte technologie, à valeur ajoutée et à haute valeur technologique. Et donc, vous allez avoir différentes options fiscales qui vont vous amener à faire un choix sur la base d'un travail qui va être fait en accompagnement avec l'administration fiscale. Alors, ce service peut vous être proposé soit de manière ponctuelle parce que vous avez une question sur un crédit d'impôt et vous voulez pas juste avoir l'avis d'un fiscaliste, mais vous voulez avoir un avis qui engage le service des impôts pour les contrôles fiscaux ultérieurs, ou vous pouvez effectivement demander plusieurs fois et questionner à plusieurs reprises l'administration fiscale en fonction de vos besoins. Voilà comment se caractérise en réalité cet accompagnement fiscal. L'administration va donc s'efforcer d'identifier les sujets qui vont mériter d'être traités et d'assister le chef d'entreprise. Alors, effectivement, vous vous dites, bah, c'est génial, comment ça se passe et comment je peux en bénéficier? Évidemment, l'État n'a pas massivement investi pour accompagner l'ensemble des entreprises en France et elle a donc dû faire un choix sur les entreprises qui peuvent bénéficier de cet accompagnement fiscal. Alors, il y a eu un certain nombre de critères que je vous ai mis, de conditions pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement fiscal que je vous ai mis sur la diapo. Vous verrez effectivement que ça restreint quand même le champ des entreprises qui peuvent bénéficier de cet accompagnement fiscal. C'est dédié en fait aux PME, c'est-à-dire aux entreprises de moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros. C'est une offre en fait qui a vocation à bénéficier à des entreprises qui entendent recruter et qui ont un fort potentiel de croissance. Donc, ça va être effectivement dans des secteurs d'activité où vous avez pas mal d'innovation, innovation technologique. Donc, ça peut être destiné à des startups. Beaucoup de startups peuvent en bénéficier ou en tout cas des entreprises qui peuvent être dans des secteurs tertiaires ou des secteurs secondaires, mais qui ont un plan de croissance et un business plan qui est en adéquation et où il y a une véritable possibilité de développement et de croissance sur plusieurs années. Ensuite, l'administration fiscale a précisé que l'accompagnement fiscal ne serait pas proposé aux gens qui ont été considérés comme, entre guillemets, les fraudeurs fiscaux, c'est-à-dire ceux qui ont été considérés comme ayant fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de contrôle. Donc, il faut faire attention si vous avez fait l'objet de contrôles fiscaux avec des abus de droits qui vous sont reprochés. Dans ce cas-là, non, vous ne pouvez pas bénéficier de cet accompagnement. Et donc, c'est donc un ensemble de critères qui sont utilisés pour pouvoir déterminer si vous pouvez être accompagné fiscalement ou non par l'administration fiscale. Voilà. Le critère principal étant la bonne foi. Voilà. C'est-à-dire, si c'est un des critères qui est demandé vraiment par l'administration pour pouvoir vous accompagner là-dessus.
Très bien, merci beaucoup, maître. Quelle est maintenant la procédure de déclaration de l'alias fiscal et doit-on forcément se faire aider d'un expert comptable, ce qui a forcément un coût, du coup?
Alors, moi, à mon avis, tout dépend également de la taille de l'entreprise. Vous avez, à mon avis, il faudrait effectivement que vous connaissiez déjà les différents types je pense, Myriam, que nous avons...
Oui, pardon, excusez-moi.
J'avais fait un slide sur la procédure de déclaration de l'alias fiscal. Donc, voilà, c'est celui-ci. Donc, je vous ai mis effectivement trois types de manières de déclarer l'alias fiscal. Toutes les entreprises, et hormis les auto-entrepreneurs, doivent obligatoirement déposer désormais leur alias fiscal par voie dématérialisée. Donc, vous avez trois possibilités. Soit vous faites appel, soit vous le faites en ligne via le site impots.gouv.fr. C'est ce que j'ai dit en début de webconférence, c'est-à-dire que vous avez l'alias fiscal et vous avez sur le site directement l'alias fiscal qui est déjà le formulaire. Vous le remplissez et ensuite vous déclarez. C'est ce qu'on appelle le mode EFI, c'est-à-dire un échange de formulaires informatisés. Vous pouvez également soit utiliser un logiciel comptable interne, par exemple, vous avez un comptable dans l'entreprise qui va effectivement remplir le logiciel comptable et on parle du mode EDI, c'est-à-dire c'est un échange de données informatisées. Et enfin, vous pouvez faire appel à un expert comptable et à mon avis, ça dépend de la taille de l'entreprise. Si vous avez pas mal de charges, pas mal de factures qui doivent être quand même revérifiées et également des amortissements, des crédits d'impôt, à mon avis, le bilan, il est préparé par le comptable, mais de toute façon, il doit être certifié également par l'expert comptable pour pouvoir être déposé auprès du tribunal de commerce. Et à ce moment-là, à mon sens, il faut effectivement faire appel à un expert comptable. Et cette procédure va porter le nom de le mode EDI-TDFC, c'est-à-dire échange de données informatisées par télétransmission de données fiscales et comptables. Et c'est l'expert comptable qui va s'en occuper, se charger. il vous montre le bilan, il vous montre l'alias fiscal et ensuite, c'est lui effectivement qui s'occupe de la télédéclarer au service des impôts. Et donc, vous devez transmettre l'alias fiscal. Comme je vous ai dit, la règle légale, c'est le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai pour les entreprises soumises à l'IS. Donc, cette année, c'est le 3 mai 2021. 2022, pardon, pas 2021. Oui. Et au plus tard, le dernier jour du troisième mois qui suit la clôture de l'exercice pour les exercices, pour les entreprises qui sont soumises à l'IS et qui clôturent en cours d'année. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez un petit peu anticipé sur ma question suivante qui concernait justement l'EFI et l'EDI et nous expliquer un petit peu plus les différences entre ces deux modes de déclaration.
Effectivement. Donc là, je vous ai donné la signification des cycles dans le poli précédent. Mais là, effectivement, vous allez voir qu'en mode EFI, l'entreprise va faire des déclarations et des paiements directement sur Internet à partir de l'espace abonné des professionnels. Alors qu'en mode EDI, soit les déclarations et les paiements vont être faits par l'intermédiaire de votre comptable. Hein. Donc là, il y a pas mal de participants qui sont dans ce secteur d'activité, ou d'un prestataire mandaté. Ça peut être même une association de gestion comptable, les médecins ou des associations de gestion comptable, les avocats, les architectes également. Et celui-ci, en fait, après la validation du bilan, se propose de transmettre directement à l'administration fiscale les déclarations et paiements effectués de l'entreprise. Et on appelle ça le mode EDI-TDFC. Voilà.
Très bien.
Voilà. Mais il faut juste que je précise quelque chose, Myriam, et après j'en aurai fini.
Oui, oui.
Ces deux modes sont acceptés pour le dépôt de l'alias fiscal. Mais il faut savoir que pour certains, le paiement de certains impôts, la CVAE ou d'autres types d'impôts, le mode EFI est celui qui est préconisé par l'administration fiscale, c'est-à-dire qu'elle veut que ce soit l'assujetti qui paye directement. Vous ne pouvez pas passer par votre comptable ou votre expert comptable pour payer certains impôts. Donc, il y a une liste que vous trouvez sur les pages impots.gouv.fr où on vous explique ce que vous pouvez télédéclarer soit par vous-même, soit par votre comptable, expert comptable, et ce que vous ne pouvez pas faire. Et c'est à vous directement d'aller sur votre espace réservé pour payer certains impôts. Voilà.
Très bien. Alors, une petite question que vient de nous poser un de nos internautes. Est-ce qu'il y a des moments où on est obligé de faire appel à un expert comptable? Est-ce que la loi nous impose le recours à un expert comptable? Et si oui, à quel moment?
Oui, pour les sociétés commerciales, il y a une procédure de certification des comptes. Et effectivement, vous devez faire appel à un expert comptable quand vous devez déposer le bilan au tribunal de commerce. Donc, qui dit dépôt du bilan, l'expert comptable vous prépare le bilan et l'alias fiscal derrière, c'est-à-dire toutes les annexes. Donc, pour les sociétés commerciales, pour les sociétés dans le domaine immobilier, les SCI, ce genre de choses, il y a beaucoup de clients qui le font eux-mêmes. Il n'y a pas d'obligation légale de certification des comptes par l'expert comptable ou le CAC. Mais il y a beaucoup de sociétés par action simplifiée, les SA, sociétés anonymes, vous avez l'obligation d'avoir un CAC, c'est-à-dire un commissaire aux comptes, donc une obligation de certification des comptes qui font que le bilan sera fait par expert comptable et certifié par le CAC. C'est souvent le cas quand vous avez des investissements importants, vous avez des usines avec pas mal de machines et vous avez aussi des apports de biens en capital. Vous devez faire certifier la valeur par le CAC. Donc, à partir de là, il y a toute une procédure de certification. Mais là, on va vers le droit des sociétés et c'est aussi un vaste sujet qui peut faire l'objet d'une conférence
ultérieure.
Ultérieure, voilà.
Très bien, c'est noté. Question donc suivante, la procédure de déclaration est-elle différente lorsqu'il s'agit de la première année de déclaration?
Non, effectivement, dès la première année, vous devez déclarer vos impôts. Hein. C'est vrai qu'effectivement, on se pose toujours la question parce que quand on est en régime d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise, la première année, alors avec la nouvelle loi de finances 2022, on en a parlé lors de la précédente webconférence, c'est une obligation qui n'existe plus. Vous serez vraiment C'est vrai que les organismes sociaux, quand vous commenciez votre année d'activité, vous prélevez en fait une cotisation forfaitaire. Mais à partir de cette année de 2022, les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises seront vraiment taxés sur leurs revenus réels. C'était ce qu'on en avait parlé lors de la précédente webconférence. Donc, pour les sociétés qui viennent de commencer leur activité, elles auront à déposer une IAS fiscale. J'ai mis les différentes dates dans le poli, hein, c'est pas forcément, mais c'est en général avant le 31 décembre de l'année qui suit leur création, et il n'y a pas de dérogation, il faut de toute façon déposer son bilan au greffe du tribunal de commerce dès la première année d'activité, et dans la foulée, l'IAS fiscale. Vous n'avez pas d'exemption d'IS parce que vous avez commencé votre première année d'activité.
Très bien, merci, c'est bien clair. Alors, la question suivante concernait la date limite de dépôt de l'alias fiscale, mais vous avez répondu à cette question un peu tout le long de cette webconférence.
C'est juste une précision à donner là-dessus.
Oui.
C'est que la date limite de dépôt des fiscales, c'est fixé au 3 mai 2022. Et pour les entreprises qui utilisent les téléprocédures, il y a un délai de 15 jours calendaire qui est conservé et qui va repousser la date limite au 18 mai 2022. Donc, moi, je préfère effectivement parler du 3 mai 2022, mais tous les professionnels du secteur vous diront, bon, ben, on a jusqu'au 18 mai pour télédéclarer en principe. Mais il faut quand même qu'elle soit prête au début du mois de mai, à mon avis.
Voilà. Oui, très bien. Alors, ensuite, lorsqu'on fait une déclaration d'impôt, on peut commettre quelques erreurs, ça arrive à tout le monde. La question qui se pose, c'est est-il possible de modifier sa liasse fiscale après l'avoir envoyée et que faire si on se rend compte d'une erreur même après la date limite du dépôt?
Oui, effectivement, c'est toujours une question qui nous est posée par les clients. Ben, il faut très rapidement régulariser son erreur en refaisant une télédéclaration, en précisant bien la période dans laquelle elle se rapporte pour que, au niveau de la télédéclaration, il n'y ait pas de soucis. Donc, l'administration fiscale verra arriver la première déclaration et la déclaration rectificative. Donc, il faut faire une déclaration rectificative. Alors, parfois, sur le site impôts.gouv.fr, vous ne pouvez plus faire de déclaration rectificative si vous avez dépassé la date limite, parce que c'est possible d'en faire encore une si vous étiez avant la date limite, mais après la date limite, il y a souvent des bugs, vous ne pouvez plus déposer de nouvelles déclarations. Bah, dans ce cas-là, il faut l'imprimer, l'envoyer en version papier au service des impôts, l'administration, en fait, règle la difficulté au cas par cas. Donc, en principe, elle doit vous facturer elle doit vous... Elle va vous allez être grevé de majoration de retard, mais en général, si c'est une erreur qui est de bonne foi et qu'il y a un incident ou un retard, ce sont des choses dont vous pouvez demander le dégrèvement. Donc, vous demanderez le dégrèvement des majorations de retard et des pénalités. Et en général, l'administration fiscale n'a pas de souci si vous avez un motif légitime à vous le donner.
Ouais, rappelons donc que tant que la date de dépôt n'est pas passée, à tout moment, on peut modifier sa liasse fiscale sur le site des impôts. Quoi.
Oui, on peut redéposer une déclaration rectificative, mais il faut faire bien attention. Il vaut mieux pas se louper dès la première fois. Après, non, il y a toujours une possibilité.
C'est préférable.
Il y a toujours une possibilité de corriger par la suite. Voilà.
Alors, on a quand même une petite question sur... les dates limites de dépôt. Donc, c'est Hervé qui nous demande, enfin, qui nous dit qu'il a une entreprise qui est soumise à l'impôt sur le revenu. Et la fin d'exercice de son entreprise se déroule à la fin du mois de janvier. Il nous demande quelle est sa date de dépôt limite.
Alors, il a une entreprise qui est soumise à l'IR, donc il est soumis au délai de dépôt des déclarations de revenus de l'IR et pas de l'IS. Là, on a parlé effectivement. Donc, en principe, dans le cas d'entreprises qui ont un exercice décalé, comme c'est le cas pour lui, la date limite de dépôt est dans les 3 mois de la clôture de l'exercice. Alors, lui, effectivement, je pense qu'il sera soumis aux dates classiques du 3 mai et du 18 mai 2022, a priori.
D'accord, très bien.
Il vaut mieux quand même qu'il se rapproche du service des impôts pour bien vérifier, mais en fonction de ce qu'il m'a dit là, voilà ce que je pense est le cas.
Voilà. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question, Hervé. Alors, ensuite, le service des impôts n'est pas exempt d'erreurs également. Hein, les contribuables en font, mais le service des impôts peut en faire également. Et jusqu'à quand donc peut-on faire des réclamations auprès des impôts?
Alors, je vous ai mis effectivement le délai général. C'est-à-dire que vous avez dans les 2 ans qui suivent la déclaration la possibilité de faire une réclamation sur un versement spontané de l'impôt contesté, sur une mise en recouvrement de rôle ou sur la réalisation d'un événement, par exemple une facture rectificative. Ça, c'est le délai général. Évidemment, vous savez la complexité du droit fiscal. Il y a des délais particuliers en fonction des différents impôts, mais je ne peux pas aujourd'hui et dans le délai qui m'est imparti présenter un tableau de tous les délais particuliers. Donc déjà, c'est très bien, retenez la règle pour les impôts courants, les impôts principaux. On est dans le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle soit du versement spontané, soit de la mise en recouvrement, donc du moment où vous payez, soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Tel ou tel crédit d'impôt ne se réalise pas, se réalise, ou effectivement des factures rectificatives. Donc, il faut que la réclamation doit être posée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la réalisation de l'événement.
D'accord, voilà. Très bien. Et n'hésitez pas, si vous avez des litiges avec les services des impôts, je vous redonne à la fin de la webconférence les coordonnées de Maître Fawaz qui se fera un plaisir de vous répondre.
Oui, tout à fait. Je fais beaucoup de contentieux fiscaux, malheureusement.
Alors, maintenant, parlons donc des sanctions en cas d'erreur ou de retard de déclaration. Quelles sont les sanctions, tout d'abord, en cas de retard de dépôt de l'alias fiscal?
Voilà, donc ça, c'était une question concrète qui était très pertinente, c'est-à-dire que ça commence à chiffrer, puisque la pénalité de retard est de 0,4% de l'impôt qui est dû par mois. Et ensuite, vous avez une majoration d'impôt qui peut aller de 10%, c'est 10% pour le retard, à 80% si l'administration considère que c'est une majoration qui est liée à de l'abus de droit. Donc, il y a des montages fiscaux qui sont faits, qui sont considérés par l'administration comme constitutifs de fraude fiscale. Et à ce moment-là, elle n'hésite pas effectivement à mettre des pénalités très importantes à hauteur de 80%. Donc, il faut partir plutôt sur une pénalité de 10% dans la majeure partie des cas, plus un taux de 0,4% pour chaque mois écoulé. Voilà.
D'accord, très bien.
Ne pas alarmer les assujettis là-dessus.
Non, en effet. Enfin, en même temps, quand il s'agit des impôts, tout le monde panique toujours un petit peu quand même. Alors, quelles sont enfin donc les sanctions en cas d'erreur de déclaration?
Voilà, donc là, sur les sanctions, vous payez une majoration égale à 10% et vous avez toujours le fameux taux de 0,4%. Puisque qui dit erreur dit reliquat d'impôt qui n'a pas été payé, donc ils prélèvent toujours leur 0,4%. Et toujours, il y a effectivement la possibilité, ça c'est la grande préoccupation des chefs d'entreprise, c'est-à-dire que si par exemple ils considèrent que votre montage fiscal, entre guillemets, votre optimisation fiscale est constitutive d'un abus de droit, là, ils n'hésitent pas à mettre une majoration à hauteur de 80%. Mais je n'ai pas pris cet exemple-là. Je suis vraiment restée sur une majoration d'impôt due à une erreur sans que la mauvaise foi du contribuable ait pu être démontrée par l'administration fiscale. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité de prendre contact avec le service des impôts, de négocier effectivement le dépôt d'une déclaration rectificative de l'alias fiscal et vous régularisez spontanément votre situation. Et vous avez également la possibilité de répondre dans les 30 jours qui suivent une relance de l'administration. Et donc, si c'est une manœuvre frauduleuse ou un manquement délibéré, d'après la position de l'administration fiscale, parce que moi, j'ai eu des contentieux fiscaux où effectivement, le contribuable me disait qu'il était de bonne foi et l'administration fiscale allait bien en tête en disant « Non, c'est un abus de droit, il y a eu une manœuvre frauduleuse derrière », alors que parfois, c'est juste des chefs d'entreprise qui ont été mal conseillés. Et donc là, c'est vrai qu'il y a des sanctions plus lourdes, je vous les ai évoquées avant, avec des intérêts de retard. Et au lieu de 0,4%, on applique un taux de retard de 0,20% par mois de retard de l'impôt dû. Donc, en général, on introduit le contentieux fiscal devant le tribunal administratif, mais on paye les sommes pour éviter effectivement que les pénalités deviennent trop importantes à l'issue du procès qui peut durer un an. En général, au tribunal administratif de Paris, on est sur des délais entre 8 mois et 15 à 18 mois. 15 mois. Jamais 18 mois. 18 mois, on est plutôt devant la Cour administrative d'appel de Paris. On est déjà en appel sur le dossier. Mais il faut compter quand même un temps qui est important et entre-temps, les majorations courent. Voilà.
Oui, donc avec les impôts, c'est vrai qu'il faut toujours mieux payer et réclamer ensuite son dû que de dire non, je ne paierai pas, c'est eux qui sont en tort. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, vous pouvez même éventuellement demander des dommages et intérêts s'il y a un trop perçu de la part des impôts.
Oui, tout à fait. On peut demander des dommages et intérêts et l'article également L61-1 qui permet de récupérer une partie des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans les tribunaux administratifs, donc notamment une partie des frais d'avocat, des fiscalistes qui ont travaillé sur le dossier. Voilà.
Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, notre webconférence arrive à sa fin, donc j'espère que ce format vous a plu et que vous avez obtenu réponse à vos questions. Donc, je vous invite à lire notre dossier sur le sujet. Marine va vous transmettre le lien de notre dossier par chat. Et n'hésitez surtout pas à contacter Maître Fawaz pour tout conseil juridique supplémentaire. Vous avez toutes ses coordonnées à l'écran, aussi bien sa boîte mail que ses numéros de téléphone. Alors, je vous demande petite chose également pour que nous améliorions le contenu de nos webconférences et éventuellement leur format. Voilà, je souhaiterais que vous nous donniez votre avis sur cette webconférence. Marine va également vous transmettre le lien pour donner cet avis par chat. C'est très rapide et ça nous aide vraiment beaucoup. Alors, si vous avez des questions sur le sujet, comme je vous l'annonçais au tout début de notre webconférence, nous vous donnons la possibilité de poser votre première question gratuitement à nos juristes. Et là encore, Marine, qui ne chôme jamais en fin de webconférence, va vous transmettre le lien par chat. Enfin, je vous donne rendez-vous donc pour notre prochaine webconférence qui reprendra une thématique liée au droit social. Elle aura lieu donc le 31 mars à 14h. Nous retrouverons également une avocate que nous avons déjà eu l'occasion d'accueillir. Il s'agit de Maître Kébé Soré et nous évoquerons la santé et la sécurité au travail, obligation de résultat pour l'employeur, point d'interrogation. Voilà le thème de cette webconférence. Et là encore, Marine vous envoie le lien d'inscription par chat actuellement. Donc, merci encore, Maître Fawaz, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi.
Merci, merci beaucoup à toute l'équipe de Jury Travail. Merci, Myriam, pour ces questions pertinentes et merci pour votre écoute à tous les participants. Et j'espère que cela vous facilitera les choses pour la suite du dépôt de cette période fiscale où on fait effectivement pas mal de déclarations. Merci encore à Jury Travail et merci Myriam.
Voilà, et effectivement, bon courage à tous pour le dépôt de vos liasses fiscales. Vous avez encore le temps, mais on sait que c'est les fastidieux. C'est vraiment bon courage. Et je vous remercie encore d'avoir assisté à cette webconférence et je vous dis au revoir et à très bientôt.